La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Et bienvenue dans cette émission La prédication protestante. Je suis Thierry Rouquet, pasteur de l'église protestante baptiste de Toulouse. Aujourd'hui, pour notre méditation biblique, je vous propose un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, et les versets 15 et 16. Livre de la Genèse, chapitre 2, versets 15 et 16. Je lis donc le texte dans la version second. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Je voudrais placer ce texte-là dans le contexte de un thème qui aujourd'hui est assez important et qu'on trouve omniprésent dans les médias, l'écologie. Dieu, en posant cette question, Dieu est-il écolo? Alors à la lecture de ce texte, on voit que la description qui nous est faite de ce lieu de l'Éden est un lieu bien qui semble merveilleux et Dieu donc place l'homme dans ce lieu-là et lui fait cette promesse extraordinaire: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Je voudrais tout d'abord souligner l'horizon extraordinairement merveilleux que nous décrit ce texte-là, puisque il n'y a un interdit qui est finalement assez limité, et à l'opposé, on a donc cette promesse de pouvoir, pour l'homme, manger de tous les arbres du jardin. Donc il y a là vraiment une promesse merveilleuse. Et je voudrais tout d'abord voir, à partir de ce texte-là, quelle est la relation que nous pourrions faire entre l'écologie et la foi chrétienne. D'abord, soulignons que dans ce texte de la création, l'acte créateur est qualifié de bon. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, eh bien, il y a ce qualificatif en hébreu « tov ». L'homme doit donc considérer que cette création, elle est bonne. Et déjà, ça lui donne une attitude respectueuse par rapport à la création et bien sûr à son créateur. Le texte de Genèse 2:15 répond à cette question. Puisque cette création est bonne, l'attitude de l'homme donc doit être respectueuse vis-à-vis du Créateur. Le texte nous dit au verset 15, « Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. » Le terme hébreu utilisé dans ce passage-là, que l'on traduit par « placer », on pourrait aussi le traduire par un autre verbe « poser ». Autrement dit, Dieu pose délicatement l'être humain dans ce jardin. Ce verbe hébreu a une connotation même de repos. L'homme doit bien savoir que Dieu l'a placé dans un contexte paisible, je dirais même apaisant, et c'est dans ce contexte-là qu'il doit servir son Créateur. Ce service divin doit s'accomplir dans l'harmonie créationnelle. Et puis il y a ces deux verbes « cultiver » et « garder ». Il le place dans ce jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Autrement dit, l'homme est le jardinier de la création. Il doit le cultiver pour travailler et pour servir son créateur et son prochain aussi. Il doit le garder aussi, bien sûr, pour en prendre soin. Autrement dit, l'être humain est gérant et non maître. Il n'est pas le possesseur au sens strict du terme. Cette création ne lui appartient pas. il en est redevable, il en est responsable. Il ne faudrait pas voir dans la domination du chapitre 1 et du verset 28 l'idée de pouvoir exploiter comme il le veut cette création, puisque justement il est redevable à son créateur. Il ne doit pas donc l'utiliser comme bon lui semble. Le récit de la création, ce récit-là, n'est pas centré sur l'homme, mais sur Dieu. C'est Dieu qui place, Dieu le Créateur, qui place l'homme, qui le pose là dans ce contexte paisible. Alors, du coup, plusieurs questions se posent à nous. Devrions-nous tout sacrifier sur l'autel du Dieu Mammon ou du Dieu économie, alors que Dieu nous demande des comptes? Notre identité d'être humain est-elle basée sur ce que nous possédons ou sur ce que nous sommes? Pouvons-nous rester indifférents quant au pillage des ressources du sol, entraînant l'appauvrissement d'une grande partie des populations où sont exploitées ces richesses? Pouvons-nous rester insouciants face aux dégradations irréversibles causées à la création de Dieu? J'ai dit tout à l'heure que la situation de l'homme est celle d'un serviteur par rapport à Dieu, au Dieu créateur. Et ça, c'est le fondement, à mon avis, de toute écologie, en tout cas de l'écologie d'un point de vue sous l'angle chrétien. Nous sommes des serviteurs, des gérants de la création de Dieu. Et comme le dit l'Ecclésiaste, ce philosophe, dans ce livre de la Bible, au chapitre 12, souviens-toi, il y a cette interpellation à l'humanité, souviens-toi de ton Créateur. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Paul reprendra un peu cette idée de redevabilité et de gérance par rapport à Dieu dans sa lettre aux chrétiens de Rome, au chapitre 14. Paul dit ceci: celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. C'est pour le Seigneur. Quoi qu'il fasse, autrement dit, il ne peut réduire sa piété, sa relation à Dieu, sa vie méditative, simplement à une célébration dominicale le dimanche. Toute sa vie, finalement, est orientée vers cet acte de grâce qu'il fait par rapport à Dieu. Il lui rend grâce. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. En étant gérant des biens terrestres au regard de Dieu, eh bien, nous devons donc rejeter toute forme d'idolâtrie, puisque notre rapport à la création est celle d'un gérant par rapport au Dieu créateur. Nous n'avons pas de cette conception que l'on retrouve dans certaines philosophies actuelles, comme dans le New Age, où l'on conçoit la Terre un peu comme une déesse, Gaïa. D'autre part, l'homme n'est pas ce Dieu tout-puissant, hein, finalement, qu'il n'est redevable à personne de ce qu'il entreprend sur cette terre. Si la terre et tout ce qu'elle renferme sont création de Dieu, alors nous ne pouvons confondre la création avec Dieu. La création n'est pas le créateur. Et puis, ceci nous engage dans une relation différente aussi par rapport à notre prochain. La façon dont nous percevons la création va avoir une implication aussi dans la façon dont dont nous engageons nos relations avec notre prochain. Saint-Exupéry a dit: nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Sous cette formule un peu provocatrice, je pense que l'idée là est de nous faire comprendre que nous sommes solidaires des générations futures, solidaires et non pas solitaires. Nous avons une responsabilité par rapport aux générations futures. Et comme le dit aussi l'Écriture, en effet, aucun de nous ne vit pour lui-même. Épître aux Romains, chapitre 14, verset 7. Dieu a créé la terre pour toute l'humanité. Dans l'espace, je dirais, et dans le temps. Toute l'humanité, c'est-à-dire sur toute la surface du globe, dans un temps précis, dans une époque précise, mais aussi pour toute l'humanité dans le temps. Et donc c'est là où rentre en jeu ce que je disais tout à l'heure de la solidarité intergénérationnelle, toute l'humanité vivant tout au long de l'histoire de cette Terre. Alors, être des consommateurs solidaires et non solitaires de l'humanité qui se situe dans tout l'espace créé, aussi bien espace temporel que physique. Nous savons qu'un cinquième des habitants de la planète consomme plus des 4/5 des ressources globales. On prend par exemple l'image de la consommation de l'eau. On arrive à des rapports absolument astronomiques entre des habitants qui consomment entre 400 et 600 litres d'eau par jour et en Afrique des habitants qui en consomment entre 10 et 30. On sait que le besoin minimum vital d'eau est de 40 litres par jour et par personne. Quand nous consommons, nous devons donc réfléchir pourquoi et comment nous consommons. Nous le faisons pas simplement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres et avec les autres. Autrement dit, consommer, c'est participer au vivre ensemble. Être des consommateurs solidaires, j'ai dit tout à l'heure, solidaires de l'humanité, se situant dans le temps. Notre civilisation a fait subir à la création de nombreuses dégradations, on le sait, hein, pollution en tout genre, l'air, dans l'eau, dans le sol, la disparition d'espèces vivantes, la réduction de la biodiversité, bon, je ne vais pas énumérer toutes ces choses-là, vous les connaissez. Et puis, il y a aussi l'idée du développement durable, c'est-à-dire un développement soutenable. Au départ, ce constat, on ne peut pas prôner une croissance économique constante et en même temps s'indigner qu'il n'y ait pas une préservation de la nature. Nous devons accepter que les ressources de notre planète sont limitées. Nos écosystèmes sont limités. Les besoins des générations futures aussi, nous devons aussi en tenir compte. Alors Dieu nous invite à devenir des consommateurs responsables. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Nous devons nous rappeler que, en tant que chrétiens, notre relation à la création s'inscrit dans cette promesse et d'abord dans cet acte générique, je dirais, où Dieu nous a placés. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui nous a posé, comme je disais tout à l'heure, dans ce cadre merveilleux, si divers et si riche. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Il y a là une promesse extraordinaire, mais qui dit promesse dit aussi, bien sûr, responsabilité, car cette promesse, elle nous vient de quelqu'un, elle nous vient de ce Dieu créateur. Cultiver et garder. Cultiver, c'est développer, favoriser une forme de croissance solidaire. Garder, comme je le disais tout à l'heure, c'est assurer la pérennité des ressources pour les générations futures. Ressources étant un cadeau du Dieu créateur à l'humanité. Tu pourras manger de tous les arbres. L'homme est donc posé au milieu de cette création, avec cette création. La création l'environne. L'homme est placé au milieu. Il le plaça dans le jardin. Il le place là, au milieu de cette création qui l'environne. Et l'homme donc bénéficie d'un environnement qui lui est donné par Dieu. Si l'homme est bien le couronnement de la création, il est aussi intégré dans cette création. Je signale au passage que dans ce jour 6 de la création, l'homme est créé le même jour que les animaux, que ces êtres. Et donc il doit là aussi, alors sans développer la question de la cause animale, mais il y a tout de même là une certaine solidarité avec les animaux. L'homme est donc un des éléments de la création. Il n'est pas le seul. Il n'est pas jeté comme cela sur cette terre de façon arbitraire pour en faire ce qu'il en veut. L'homme doit donc tenir compte de l'équilibre physique et biologique. Il est totalement impliqué dans un réseau complexe de relations au vivant. Et toucher un de ces éléments, c'est modifier l'ensemble. Tout ce que nous produisons, tout ce que nous vendons ou achetons a forcément des conséquences sur notre environnement et sur le monde. Nous avons besoin, comme l'a dit quelqu'un, de lever nos yeux et de voir plus loin que l'horizon de notre caddie. Pratiquement, il est possible dans notre contexte européen de développer une consommation responsable malgré les sollicitations publicitaires nombreuses. En limitant les gaspillages, on le sait, dans l'ère du jetable. Et à vouloir une économie basée sur des profits rapides, sans prise en compte des conséquences sur l'environnement, eh bien on promeut cette société du jetable. On parle de rasoirs jetables, d'appareils photo jetables, de salariés jetables. Je me rappelle une anecdote qui m'avait marqué. Avec un ami, nous voulions arranger une porte. Il y avait un problème avec la serrure. Et quand nous sommes allés dans ce magasin, cette grande surface, bien le vendeur nous a dit: mais vous embêtez pas à chercher à remplacer cette serrure. Nous vendons des portes bon marché. Donc autrement dit, pour changer une petite pièce, il fallait changer la porte entière. Jusqu'où allons-nous aller dans cette ère du jetable et de la consommation? Donc nous devons garder un esprit critique vis-à-vis de tout ce que l'on peut nous proposer, bien gérer aussi finalement ce que Dieu met à notre disposition, redécouvrir ce qui est essentiel dans la vie, dans nos relations. Peut-être n'avons-nous pas besoin d'acheter ceci ou cela pour être heureux. Posons-nous au moins la question. Émerveillons-nous déjà devant cette création, soyons sensibles aux personnes aussi autour de nous. Une éducation à la consommation responsable pour nos enfants est nécessaire et vitale. Globalement, il nous faut être et partager plutôt qu'avoir et paraître. La Bible ne se prononce pas pour un système économique particulier. Elle ne fait pas la promotion d'une politique écologique particulière, mais elle nous donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques pistes. Par contre, les Écritures approuvent ou désapprouvent certains comportements, certaines façons de consommer, certains styles de vie. Dans les Proverbes, il y a ce texte, je crois au chapitre 30, ne me donne ni pauvreté, de peur que je ne te renie, ni pauvreté, ni richesse, de peur que je ne t'oublie. Ne me donne ni pauvreté, donc ni richesse. Apprenons donc à discerner entre les vraies valeurs et ce qui est futile. Exerçons notre discernement aussi pour distinguer ce qui est nécessaire du superflu. L'utile de l'inutile, l'agréable du luxe. Un style de vie modéré, oui, sobre, tempérant. Nous devons donc revaloriser, pardon, la frugalité, retrouver le plaisir des choses simples. Comme le dit Paul dans ce conseil à son fidèle disciple Timothée, afin de mener une vie paisible et tranquille, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu, ce qu'on appelle la piété, une vie qui commande le respect. La piété, un mot éculé, doit pouvoir se décliner de façon pratique, justement, dans tous les domaines. La piété ne concerne pas seulement notre vie de prière et de méditation biblique, ni la fréquentation des célébrations, que ce soit un culte ou une messe, mais la piété s'inscrit aussi dans cette gestion responsable des ressources que Dieu met à notre disposition. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. La maison commune, cette maison commune dans laquelle, eh bien, Dieu nous a placés tous, doit nous inciter à avoir une attitude responsable. Surtout que Dieu nous fait cette promesse: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Nous ne sommes pas dans une relation, le chrétien n'est pas dans une relation, je dirais, esclave. Il a un horizon ouvert. Alors, apprenons à partager, apprenons à avoir une consommation responsable. En attendant la résurrection, puisque les chrétiens croient à la résurrection des corps, toute la création exprime un soupir, et nous avec elle, une souffrance. L'apôtre Paul le dit dans un texte dans l'épître aux Romains au chapitre 8, verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création, entendez bien, tout entière, soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Une sorte de personnification de la création qui nous montre donc que, eh bien, ensemble avec elle, nous aspirons à ce temps où Dieu rétablira toutes choses. Mais en attendant, notre responsabilité est pleinement engagée. Car depuis la venue du Christ et sa résurrection, la vie de la nouvelle création est déjà à l'œuvre ici-bas. Désormais, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Elle attend ce jour glorieux où Dieu enfin délivrera la création et nous-mêmes de ce qui encore la retient captive et l'empêche de se déployer pleinement dans le but originel de Dieu. En attendant, notre espérance doit nous conduire à une conversion spirituelle avant d'être une conversion écologique, une conversion spirituelle, c'est-à-dire un retour à Dieu dans la considération que nous lui devons pour cet acte créateur et cette promesse magnifique qu'il nous a faite de nous placer dans ce jardin. Une conversion de tous les instants au Dieu créateur. Et comme le dit l'Ecclésiaste au chapitre 12 et au verset 1, souviens-toi de ton créateur.
Les astres ont écouté ta voix. La terre a tourné pour la première fois. Avec amour, sagesse et art, tu écrivais notre histoire. Tu nous as fait à ton image, donné la terre pour héritage. Mais qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh,
le doute s'efface
devant le spectacle,
devant le spectacle
de ta majesté,
de ta majesté.
Que nos cœurs se
réveillent,
nos yeux s'émerveillent
de ta majesté, de ta majesté.